J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi.
C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui collent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider.
CO2, mon amour.
Atmosphère. Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
Denis Chessou.
Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère.
Sur France Inter.
Ah bah celui-là, il n'y a pas besoin de vous le sous-titrer. Hein. Le film de Carnet, Hôtel du Nord, aujourd'hui, ferait sans doute évoluer, je pense, les dialogues d'Henri Janson, parce qu'on ne parlerait plus d'atmosphère, on dirait. Qu'est-ce qu'on dirait? Ben, je veux changer d'effet de serre. Et mon effet de serre, c'est toi. J'étouffe. Tu me réchauffes. Tu fais monter la température. Tu me chauffes de trop.
Ah, effet de serre, effet de serre. Alors, bonne pêche et bon effet de serre.
Oui, mais trop de réchauffement dans les rivières, c'est pas bon pour le poisson. C'est pas bon pour le poisson et pour le reste. Oh, moi, je vais vous dire. Là, mon petit gars, le Denis, dans ton émission, dans ton CO2, je sais plus trop quoi, tu vas pas leur causer réchauffement. Parce qu'au milieu des wagons de neige et la France qui patine dans le froid, avec un cache-col sur le nez, à mon avis, le message, il va avoir du mal à passer. En revanche, vous allez nous faire une chaleureuse émission, bien positive. Oui, parce que les gens, c'est-à-dire nous tous, eh ben, on en a besoin. Ah d'accord, donc le message est parfaitement passé. On va essayer de faire ça avec Alexandre Chenet, donc à la technique. Et nous avons donc préparé l'émission avec Camille Blanès et c'est Hélène Biziot qui la réalise cette semaine. Et si je vous dis grandes oreilles, eh bien on pense aux ânes crétois, aux lièvres d'Europe, aux radars, aux satellites militaires, aux éléphants d'Afrique. Ça, ce sont véritablement des champions des grandes oreilles. Alors, les murs aussi, dit-on, ne sont pas mal équipés. Mais voilà-t-il pas que des chercheurs israéliens de l'université de Tel Aviv viennent de découvrir que l'appareil auditif peut être aussi associé aux fleurs. Oui, je dis bien les fleurs. Les jolies corolles, étamines et pistils font toujours partie de la panoplie indispensable et nécessaire pour charmer le bourdon et autres pollinisateurs. Mais le sens de l'ouïe, faculté encore plus subtile, serait sournoisement et joliment utilisé par ces demoiselles parfumées pour faire tourner la tête de l'abeille. Selon le processus suivant, Dame Primevère ou Dame Onagre, parce que ce sont elles qui ont été testées, perçoivent sous forme d'ondes sonores les vibrations de l'insecte qui passe. Et alors là, elles envoient aussitôt un mail ou un SMS au service Nectar pour qu'il pousse rapidement 3 minutes sa concentration en sucre de 20% supplémentaire. Alors on le sait, hein, les plantes ont inventé des couleurs qui leur servent de panneaux publicitaires pour attirer le client. Mais en plus, la butineuse gourmande capte aussitôt le message sucré plus et se précipite au rayon friandise comme au solde d'hiver. Et là, hop, le joli tour est joué. Tout le monde y gagne, en miel, en fécondation. Alors cela pourrait expliquer pourquoi tant de fleurs présentent cette forme d'entonnoir, capable de traiter les sons aussi bien que l'antique pavillon d'un phonographe. Et une preuve, nous disent nos chercheurs, c'est que si vous coupez les pétales de la fleur, terminez l'augmentation du taux de sucre dans le nectar. L'abeille repart les paniers vides en jouant un air de violon assez tristounet. Plus fort encore, seules les basses fréquences les intéressent. Donc elles se fichent, mais alors comme d'une guigne du vent, du passage d'un autobus, d'un concert de Booba à l'Olympia, pas du tout. Et n'oubliez jamais, selon les saints préceptes de notre bon Jean-Marie Pelt, botaniste que le bon Dieu garde dans son jardin, qu'il faut laisser en jachère une partie de nos idées reçues sur l'infinie richesse des mystères de la nature. Alors on va commencer par une petite actualité. En fait, non, je vous ai menti. On parle encore un tout petit peu de réchauffement climatique. Je vous explique pourquoi. Entre la Floride et les Bahamas, vous avez donc cet immense fleuve de 30 à 150 km de large qui part dans l'Atlantique. Il a les bras chargés de ses 24-28 degrés de température. Il remonte vers le nord pour nous les offrir. C'est bien le Gulf Stream, le courant du Golfe. Et Michel Galliot, bonjour à vous. Parce que vous m'avez passé en fait un mail pour réagir aux propos la semaine dernière de Evrard Vandenbaum, alors explorateur, scientifique, qui parlait du Groenland. Il y a un moment, donc, il émettait une hypothèse, donc, qui est très répandue dans les médias. S'il devait y avoir trop d'eau froide du Groenland liée à la fonte des glaciers dans ce grand radiateur qu'est le Gulf Stream, parmi d'autres, parmi tous les autres courants, eh ben on pourrait, alors il était quand même au conditionnel, craindre son arrêt ou son ralentissement. Et grâce à votre réponse, on corrige, on complète nos informations un petit peu bancales.
Bonjour Denis. Alors, un ralentissement, c'est possible. Un arrêt, aucun modèle climatique couplé océan-atmosphère ne prévoit un arrêt. Il faut savoir que le Gulf Stream, c'est un courant de surface qui est poussé par les vents dominants. Ces vents dominants, qui sont des vents d'ouest, qui nous amènent donc les eaux chaudes du golfe du Mexique jusque en Europe occidentale. Et si ces vents sont d'ouest, c'est parce que la Terre tourne. A priori, la Terre ne s'arrêtera pas de tourner, donc on aura toujours des vents d'ouest. Donc l'arrêt du Gulf Stream n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Et puis, le deuxième élément, c'est que notre climat, c'est vrai qu'il est en partie marqué par les eaux chaudes du Gulf Stream, mais il est aussi marqué parce qu'on a ces vents d'ouest et de sud-ouest, c'est les vents dominants en France, hein. Eh bien, ils nous amènent aussi de l'air plutôt tempéré. Donc, même l'arrêt du Gulf Stream, qui n'est pas à l'ordre du jour, mais même s'il arrivait, on aurait toujours ces vents-là, parce que la Terre continue à tourner, et dans ce cas-là, on aura toujours des températures relativement douces. Donc, un arrêt du Gulf Stream, s'il arrivait, descendrait les températures de 2 ou 3 degrés, mais comme on aura déjà gagné peut-être 3 degrés par le réchauffement climatique,
ah oui,
on n'aura pas du tout une glaciation.
Alors, sinon, rappelez-nous quand même le principe, c'est-à-dire qu'on a donc ces eaux d'Atlantique, et on a donc les eaux d'Arctique qui sont plus denses, parce qu'elles sont plus froides et elles sont plus salées. Donc, elles se marient l'une et l'autre, il y en a une qui passe sous l'autre.
Oui, alors en fait, c'est plus compliqué que ça, c'est qu'on a ce qu'on appelle le tapis roulant océanique, c'est l'ensemble de la circulation des courants marins qui vont équilibrer la température entre les tropiques chaudes et les pôles, et le Gulf Stream en fait un petit peu partie de cette circulation. Mais par contre, l'élément fondateur du Gulf Stream, ce sont ces vents. Ces vents d'ouest. Après, donc, il prend les eaux chaudes et qui va ensuite, les eaux vont petit à petit se refroidir parce qu'elles sont quand même chaudes, mais elles sont plus salées, donc plus denses. Ensuite, ça va à nouveau aller vers le fond de l'océan quand ça arrive et en Arctique. Donc, c'est les vents et la configuration de l'Atlantique Nord qui font qu'on a ce Gulf Stream.
D'où ça vient, en fait, cette idée que ce Gulf Stream aurait pu s'arrêter et après, ça entraînerait une glaciation?
Alors, il y a une dizaine d'années, il y a eu une étude scientifique qui a, effectivement, suite à des mesures qui nous disaient que le Gulf Stream ralentissait, et une équipe scientifique qui a fait un papier sur ce sujet-là. Et ce papier a eu un écho très important dans les médias, et en plus, il y a eu le film Le jour d'après.
Ah oui, bien sûr.
Qui a marqué les esprits.
Donc, Michel Galliot, on va pas s'inquiéter quand même plus que ça. On peut avoir donc un ralentissement, mais c'est tout.
Voilà, pour l'instant, voilà, je crois qu'il faut pas fantasmer sur cet arrêt du Gulf Stream. Il peut y avoir un ralentissement. Mais en tout cas, ça ne serait pas une catastrophe pour le climat de l'Europe occidentale.
Merci à vous donc Michel Galliot. Je le dis, vous êtes membre de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement, climatologue aussi, donc vous connaissez bien sûr bien le sujet. Alors, notre sujet principal aujourd'hui, on va rejoindre Frédéric Danhé donc à la fin de l'émission parce qu'on va parler de chimie et de molécules. Et juste avant, on va parler de chimie verte. Je vais vous emmener au sud de Lyon, dans la vallée de la chimie. Vous avez 25 km d'usines, de raffineries sur Fézin, Saint-Pons, Pierre-Bénite, Solèze. Et aujourd'hui, vous avez le Grand Lyon qui cherche à requalifier les terres, les sols, mais aussi les usines, et aussi à fabriquer de l'énergie renouvelable. Donc comment est-ce que l'on fait basculer tout ça? Ça va être une question de temps, mais nous allons partir dans quelques instants dans ce Grand Lyon. il lui dit c'est pas la peine. Heureusement, ils ont pas dit que c'était pas la peine d'aller dans le Grand Lyon et aussi dans la Vallée de la Chimie. Ça tombe bien parce qu'on y est dans quelques instants. Ça, c'était Vaudou Game sur France Inter.
Les Shadoks n'avaient pas de carburant assez puissant pour faire partir leur fusée. Alors, ils essayaient de pomper le Cosmogol Jibi à travers le cosmos. Mais le Cosmogol ne l'entendait tout simplement pas de cette oreille. Et tout était à recommencer.
Là où CO2 mon amour passe, la pollution prépare. Et allez. Eh ben quoi, on peut rêver un peu, non?
Ah ben on peut toujours rêver, mais absolument. Et puis après, les rêves se réalisent. Donc, on va parler aussi de ce carburant, mais de carburant donc différent, un peu plus végétal. Et là, on part tout de suite. On va poser le décor. Où allons-nous dans cette vallée de la chimie?
Julien, là, je clique sur la partie touristique. On va se faire un petit peu le décor. On a Fourvière juste à droite.
C'est ça, exactement. Et la Confluence, juste après, avec le musée des Confluences qu'on aperçoit dans la brume.
La Confluence, c'est le Rhône et la Saône qui se marient merveilleusement.
Qui se marient, voilà. Et le Rhône l'emporte sur la Saône puisqu'il va, lui, jusqu'à la Méditerranée.
Bah, il paraît, oui.
On a le port Édouard Herriot, effectivement, qui est le port fluvial lyonnais, avec ses grandes cuves de stockage d'hydrocarbures, extrêmement importantes pour l'ensemble de la métropole de Lyon. Et puis on arrive sur la commune de Saint-Fons, face à Pierre Bénite, hein, qui elle aussi accueille Arkema, donc une industrie chimique importante. Saint-Fons qui déroule ses usines, donc Solvay, Chemoine, Blue Star Silicone, jusqu'à la raffinerie Total de Fézin plus au sud. Et puis au milieu de ces grands industriels, 2000 chercheurs. Alors c'est pas des chercheurs académiques, c'est des gens qui font de la R&D industrielle, mais on a 2000 chercheurs sur ce territoire, ce qui est extrêmement important. On a le plus grand centre de recherche international de Solvay, hein, qui est actuellement en cours de transformation. Solvay va construire son plus grand campus mondial ici à Saint-Fons. Donc sur un territoire qui a 30% de chômage, c'est quand même une donnée clé pour le devenir d'un territoire comme celui-là. Et puis on a l'Institut français du pétrole énergie nouvelle, le centre de recherche d'Arkema. Donc vraiment un haut niveau de R&D en lien avec l'industrie.
On aime bien changer de couleur, vous le savez, dans CO2 Mon Amour sur France Inter. Alors, c'est une balade informative, certes, mais industrielle cette fois, et alors très très peu naturaliste aujourd'hui. Je vous emmène dans un lieu, c'est pas du tout un lieu de vacances, hein, c'est comme Fos-sur-Mer, bon, sauf à vouloir s'encrasser les poumons, mais, en revanche, c'est un lieu où vous passez quand vous allez en vacances dans le sud. Oui, nous sommes dans cette vallée de la chimie que vous connaissez, donc dans le Grand Lyon, au sud de Lyon. Lorsque vous avez de l'eau de Javel, de l'aspirine, même de la vanille, hein, douce odeur merveilleuse qui sort donc des usines de chez Solvay avec de la vanilline, eh bien ça vient de là. Économie et écologie doivent marcher ensemble. J'enfonce une porte ouverte, mais c'est quand même une réalité aujourd'hui, sinon ça ne fonctionnera pas. On a 11 000 hectares à nos pieds et c'est Julien Lahaye, donc du Grand Lyon, qui nous attend. Une petite butte, et on va avoir une vue imprenable. Ah ouais, quelle était verte ma vallée. Alors là, c'est pas exactement ça. Julien Lahaye, parce qu'on est donc avec vous. Alors je tiens à dire que vous êtes le directeur de la mission Vallée de la Chimie. On est à Saint-Fons, et on est sur un des points culminants. Et alors face à nous, eh ben ouais, cette vallée, c'est-à-dire qui s'étend sur 25 km et qui a quand même une très très belle histoire. Si on regarde à droite, on a donc Lyon, et ça veut dire que on a les soyeux, on a les fabricants de la soie et qui ont donné naissance à cette vallée de la chimie. Racontez-nous.
Effectivement, on est dans l'un des berceaux de la chimie française, puisque donc la vallée de la chimie s'est développée dès la fin du 19e siècle. Alors, vous avez raison, Denis, surtout à Lyon, parce qu'on a l'histoire de la soie. D'abord à la Croix-Rousse, hein, la soie artisanale, ouais, avec les métiers à tisser. Et puis, la soie qui a commencé à s'industrialiser avec les problématiques de colorants plutôt à l'est de Lyon, hein, sur les communes de Décines notamment et de Vaux-en-Velin. Et puis, effectivement, tous ces métiers liés à la coloration de la soie ont donné naissance dès 1880 au démarrage de la chimie, et notamment de la chimie industrielle, ici à Saint-Fons, où des premières usines se sont implantées. Elles employaient déjà des milliers de personnes, et elles ont donné naissance à ces fameuses communes de la vallée de la chimie que sont Saint-Fons, Fezin, Pierre-Bénite, et l'ensemble du territoire sur lequel on intervient aujourd'hui.
Il y a eu ce bouleversement de paysage. On est dans les années 1962. On a donc l'autoroute qui arrive. Donc là, ça bouleverse absolument tout. On a aussi donc le canal du Rhône.
Exactement. On a les grands travaux lancés par l'État avec le ministère de la Reconstruction, début des années 60. La construction de l'autoroute A7, presque tout le monde est déjà passé dans la vallée de la Chimie pour se rendre dans le sud. La construction d'un canal de navigation du Rhône qui va permettre effectivement de construire un port à Lyon, le port Édouard Herriot, et d'amener des navires depuis Marseille et Fos, ce qui va aussi permettre justement le développement de la chimie. Et puis le souhait de l'État en parallèle de développer des grandes raffineries, dont la raffinerie de Feuzin, aujourd'hui exploitée par Total, qui a permis justement de développer autour de cette raffinerie un écosystème autour de la chimie, et notamment avec l'implantation de Rhône-Poulenc dans les années 60.
On imagine bien que la qualité des sols, ça ne doit pas être quand même terrible, avant de reparler de votre qualification, mais enfin, j'imagine bien que c'est un peu plombé sans jeu de mots. Quoi.
On ne va pas dire le contraire, effectivement, on est sur un territoire qui a été fortement marqué par l'industrialisation et par la chimie. On est donc sur des sols souvent de qualité très pauvre, avec des pollutions industrielles, et puis je dirais même, avant même les pollutions, de toute façon, un territoire qui s'est construit sur des remblais, puisque pour amener le canal, pour amener l'autoroute, il a fallu remblayer ce territoire avec des remblais de pauvre qualité que les industriels sont venus, entre guillemets, aggraver. Et aujourd'hui, on est face à une problématique importante de traitement de cette pollution avec effectivement des solutions innovantes pour venir implanter de nouvelles activités.
On a d'un côté le Grand Lyon, on a les industriels, on a la recherche. Et que souhaitez-vous faire donc sur ce territoire? Comment souhaiteriez-vous, on va dire, requalifier un peu ces paysages?
L'ambition que porte la métropole de Lyon sur ce territoire est importante, puisque, comme on l'a dit, la vallée de la chimie constitue l'une des entrées principales de Lyon, lorsqu'on arrive du sud. Et depuis l'accident AZF de 2001 à Toulouse, le choix a été fait par la métropole de Lyon de dire « on va accompagner les grands industriels, même s'ils présentent des risques, pour transformer ce territoire et les inciter effectivement à se moderniser, à investir, avec une culture du risque partagée ». De relier aussi de manière plus forte que ça a pu être le cas ces 20 dernières années, ce tissu industriel avec les communes dans lesquelles ces entreprises sont implantées. Il faut avoir en tête que au milieu du 19e siècle et jusque dans les années 80, 80 à 90% des habitants des communes de la vallée travaillaient dans les entreprises de la vallée de la chimie. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas et moins de 5% des habitants de la vallée travaillent sur ce territoire. Avec du coup des problématiques de mobilité, d'accès à l'emploi. On est sur des communes qui ont des taux de chômage importants,
30%
à Saint-Fond, donc on voit bien la problématique. Donc un vrai enjeu de reconnecter effectivement les habitants avec les emplois de ce territoire et un projet ambitieux effectivement de requalification à la fois économique autour notamment des énergies propres, autour d'une industrie plus vertueuse, mieux connectée aussi au centre de Lyon, qui pourrait par exemple alimenter les réseaux de chaleur, le réseau de chauffage urbain à partir effectivement de la production industrielle et du coup de faire effectivement de la vallée de la chimie un territoire producteur pour l'ensemble de la métropole.
Quand vous parlez par exemple de réseau de chaleur, c'est-à-dire qu'en fait il s'agirait de récupérer, on va dire, l'énergie fatale pour pouvoir après la réinjecter, avec, il y a du travail quand même avec tout ça, et pouvoir donc alimenter le réseau de chaleur.
C'est l'un des axes importants sur lequel on travaille. Tous les industriels ont des réseaux de production de chaleur et de vapeur, souvent effectivement qui fonctionnent à l'échelle des sites industriels, qui ne sont pas obligatoirement interconnectés les uns avec les autres.
Et qui vont donc réchauffer les oiseaux peut-être?
Exactement, et dans certains cas on est même obligé de refroidir la chaleur produite avant de la jeter dans le Rhône. Ouais. Donc on voit bien l'économie industrielle qui ne fonctionne pas très bien de ce point de vue-là.
Non.
Et en même temps, on a un réseau de chaleur à l'échelle de toute la métropole, sur Lyon Centre et Villeurbanne aussi, et qu'on essaye de reconnecter avec celui de Vénissieux. Et on a donc effectivement l'enjeu d'interconnecter les réseaux privés industriels avec le réseau urbain, sachant que cette chaleur perdue pourrait effectivement être gagnée dans le réseau métropolitain.
Là, on se tourne vers le sud. Là, j'étais en train de compter les tours. J'en ai 10, plus 2 lance-flammes. Ça sent la raffinerie, ça.
Ça sent la raffinerie de Feuzin, effectivement, avec son vapeau cracker. C'est une raffinerie extrêmement importante pour l'ensemble du territoire qui alimente l'ensemble du quart sud-est de la France en carburant et même jusqu'à Dijon plus au nord.
C'est vrai que c'est historique parce qu'en fait c'est pas très rentable pour Total, hein, disons-le, c'est quand même sur l'exploration qui gagne énormément d'argent, c'est pas tellement sur la distribution non plus, ils la gardent quand même la raffinerie.
On espère qu'ils vont la garder pendant longtemps ici à Lyon parce qu'effectivement les interdépendances entre les usines chimiques et cette raffinerie pour l'alimentation en matières premières sont extrêmement fortes et on a un enjeu effectivement à conserver cet outil de production, notamment d'utilité industrielle, sans quoi la majorité des industriels dont on a parlé auraient du mal à rester sur ce territoire.
Et puis il y a aussi la requalification du foncier. On imagine bien que le foncier doit appartenir quand même aux usines qui sont dessus, mais vous souhaitez quoi donc ici ?
Le territoire de la vallée de la chimie est très grand, on a près de 2000 hectares d'emprises industrielles. Et aujourd'hui, les industriels qui historiquement avaient des grandes galettes foncières qui pouvaient faire jusqu'à une centaine d'hectares par usine ne consomment finalement pour leur process que 20 à 25% des sites sur lesquels ils sont implantés.
Et le reste c'est quoi ? C'est les espaces verts ?
On le voit devant nous, le reste c'est quand même plutôt soit de la friche industrielle qui n'a pas encore été démolie, soit des espaces verts mais avec des qualités de terre et de sol comme on l'a dit tout à l'heure, pas toujours... très qualitative.
Autrement dit, les sols sont pollués. Enfin,
Exactement. Des sols pollués, mais qui ont souvent une compatibilité avec un usage industriel.
Oui.
Et ça tombe bien parce que l'enjeu, on l'a dit, c'est de continuer à implanter des activités industrielles sur ce territoire, notamment pour renforcer cet écosystème chimie, énergie, environnement. Et du coup, on se sert effectivement des fonciers disponibles dans le cadre d'un appel à projet qu'on a mis en place le Grand Lyon avec l'ensemble des industriels qui s'appelle l'appel des 30 pour aller chercher de nouvelles entreprises, venir les implanter et qu'elles puissent bénéficier effectivement de tous les services que la plateforme Vallée de la Chimie peut proposer.
Je vais me tourner vers Fabien Bordon là toujours face à cette grande plaine, on va dire, hein, donc cette Vallée de la Chimie, parce que vous en fait vous essayez d'accompagner le changement. Comment on accompagne les gens ? On sait bien que c'est pas que des process industriels.
On accompagne effectivement à la fois l'entreprise à changer de process, à changer de matière première. Et là, évidemment, le premier des freins, c'est le modèle économique. Est-ce que la matière recyclée est compétitive face à la matière conventionnelle avec un modèle linéaire ? Donc, est-ce que le modèle circulaire va être compétitif ?
Et la réponse, quelle est-elle aujourd'hui ? On pourrait se dire, c'est non, mais c'est peut-être quand même nuancé.
Alors, évidemment, il n'y a pas de réponse toute prête et c'est au cas par cas. Par contre, ce qu'accompagne la métropole, cette dynamique collective, elle permet d'améliorer le modèle économique en mutualisant les coûts, en ayant des achats groupés, en ayant des systèmes de production d'énergie renouvelable collectifs, partagés. Ça permet vraiment d'avoir une massification, du coup, d'être beaucoup plus compétitif que si l'industriel changeait de modèle seul.
Alors, est-ce qu'on a l'œil rivé, on va dire, sur le CO2 qui est quand même une espèce de nouveau totem ? Je dirais que c'est pas forcément mieux d'ailleurs que d'avoir l'œil rivé sur le PIB. Mais est-ce que ça, c'est le premier compteur que vous regardez ou bien vous arrivez quand même à avoir une vue d'ensemble ?
L'approche, elle est vraiment globale et on essaye aussi de rechercher les impacts vraiment de proximité, les impacts locaux. Notamment, on parle de production d'énergie, on a beaucoup parlé de production d'énergie. Acheter de la matière première, du gaz naturel, c'est de l'énergie importée. Si on construit sur place, un électrolyseur par exemple, pour produire à partir du barrage de Pierre-Bénite, là exploité par la CNR, produire de l'hydrogène propre, c'est des investissements en local, c'est de l'emploi en local. On va créer de la compétence, on va accompagner peut-être les habitants à venir se former, à travailler dans des sites sur place qui vont permettre de répondre aux besoins de l'industriel, de s'approvisionner en hydrogène en l'occurrence. Et du coup, on enclenche vraiment des boucles vertueuses avec des investissements, des emplois, de la production qui est en local, de proximité. Et du coup, on a peut-être un coût qui est similaire ou qui est peut-être un peu plus élevé. Par contre, pour l'industriel, c'est aussi une garantie sur le moyen à long terme de maîtriser les coûts et d'avoir un vrai pouvoir sur le producteur d'énergie.
Allez, on va poursuivre ce voyage dans la vallée de la chimie. On va découvrir à la fois l'Institut français du pétrole et des énergies renouvelables, et puis on va faire aussi un petit tour du côté du gaz. Après cette chanson.
It's been a long, gray winter strike. It's been hard trying to make it on your own. Oh, honey, I know. I'm keeping the sweetest of summertime. We've been trying to get our shit together and make it out alright. Why do we always love the cry?
Edge Burns sur France Inter, CO2 Mon Amour, choisi par Thierry Dupin, notre programmateur. Faut pas se tromper, hein. Ce sont bien des Français, mais oui. C'est des petits gars de Romans-sur-Isère, et ils avaient le Vercors sous les yeux, et puis ils se sont dit, on va prendre notre boîte de rabioles, et puis on va quand même aller mixer à Los Angeles ce disque. Donc, Edge Burns sur France Inter, et là, on va poursuivre ce voyage dans la vallée de la chimie. On va rencontrer donc deux industries. Nous avons été formidablement accueillis par Cécile Barrère-Tricat, qui est la directrice de l'IFP. Qu'est-ce que l'IFPEN? Eh ben, c'est l'ancienne IFP, l'Institut français du pétrole. Bon, et là, à cette époque-là, on favorisait le développement, l'industrie pétrolière, les usages du pétrole, de la bagnole, tout ce que vous voulez. Et donc maintenant, ils ont changé quand même. On développe les technologies, les matériaux de futur dans les domaines de l'énergie, du transport, de l'environnement. Vous avez 50% du budget maintenant, investissement, recherche, innovation, qui passe dans les énergies nouvelles. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, vous avez de la catalyse dans tous les sens. On accélère les réactions chimiques. On va en savoir un petit peu plus. On se couvre, ah oui, là faut être couvert, et puis donc on va rencontrer tout de suite, allez, on va être dans le cœur du sujet avec un chercheur.
Port obligatoire des lunettes et des vêtements couvrant ce que nous avons. Slavik Castellan, donc s'il vous plaît, vous êtes le responsable des programmes Chimie Vert, donc racontez-nous, qu'est-ce que vous faites vous ici?
Et bien, essentiellement, donc on transforme la biomasse dites lignocellulosiques, c'est-à-dire le bois, les déchets, ouais. Les résidus agricoles, en grands intermédiaires chimiques. Donc soit identiques à ceux qu'on peut faire à partir de pétrole, ou bien des nouveaux produits différents qui vont ensuite être utilisés dans la vie courante. Donc un exemple, c'est le biobutadiène. Le butadiène, ça sert à faire du caoutchouc synthétique. Mmh. Donc c'est essentiellement utilisé dans les pneus. Et donc avec Michelin, on a un projet pour transformer grosso modo du bois vers ce butadiène qui va être ensuite transformé en caoutchouc synthétique biosourcé, donc d'origine biologique.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus forcément dans les VA, même si on l'utilise, mais ils utilisent quoi pour faire des pneus?
Alors, ils utilisent la même molécule, mais qui est issue du pétrole et du gaz naturel, d'ailleurs. Donc ça, c'est un cas où on va chercher à faire exactement la même molécule, comme ça, elle va pouvoir être utilisée comme les transformer au jour d'aujourd'hui le butadiène en caoutchouc synthétique. Simplement, on va la faire en prenant de la biomasse, en faisant un certain nombre de traitements chimiques. L'objectif étant d'optimiser au maximum sur le plan technique pour être économique, pour être en sécurité, etc.
Cécile Barrère-Tricat, je me trouve la directrice. Ça veut dire que donc il y a des dépôts de brevets pour tout ça?
Bien sûr, tout à fait. Nous déposons à IFP Énergie Nouvelle environ 180 brevets par an. Nous sommes le 13e déposant national de brevets et le 3e centre de recherche en France déposant de brevets. Et ramené au nombre de chercheurs, on est même le premier centre de recherche déposant des brevets.
ça vite. Là, je prends une bouteille d'eau. Moi, j'évite. Hein. Je préfère de l'eau du robinet dans un bon récipient en verre. Mais enfin, bon, il y a quand même pas mal de consommation là, qui existe. Qu'est-ce que l'on essaye de faire?
Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est faire le même plastique, mais à partir de biomasse. Donc, on part carrément de bois. Et ce bois, on le transforme en ce qu'on appelle des aromatiques. Donc, ils sont des molécules de base de la pétrochimie. Et l'une d'entre elles sert à faire ce plastique.
Et ça pourra se recycler?
L'avantage du PET, c'est qu'il est recyclable. Donc, il y a déjà une certaine fraction au jour d'aujourd'hui de PET dit clair, hein, transparent pour les bouteilles, qui est recyclé mécaniquement. Donc, ce sera exactement le même plastique. Donc, il sera effectivement recyclé de la même manière.
C'est à quel horizon, ça?
Dans les deux cas, on est à peu près sur le même ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va pouvoir commercialiser ces technologies vers 2021.
Pardonnez-moi, mais c'est comme de la très belle quincaillerie, si j'ose dire. Hein. Donc c'est incroyable.
Oui, nous avons des équipements. Nous avons la chance d'avoir des équipements extrêmement intéressants parce que nous avons sur le site 90 unités pilotes, hein, le même genre d'unités que vous voyez ici, plus une trentaine de maquettes froides qui nous permet d'étudier les phénomènes hydrodynamiques dans les réacteurs industriels. Donc on est extrêmement bien équipés, mais c'est nécessaire quand on veut développer des procédés et aller jusqu'à l'industrialisation. Il faut bien comprendre qu'ici, on ne fait pas de la recherche fondamentale, on ne fait pas de la recherche
appliquée.
C'est de la recherche appliquée à vocation de développer des procédés, des catalyseurs qui seront mis sur le marché concrètement.
En fait, votre matière première, c'est la cellulose et la lignine.
Tout à fait, c'est la lignocellulose qui est en fait qu'on retrouve dans les végétaux. Et donc nous, on utilise particulièrement les déchets de l'agriculture, les déchets des forêts, voire dans certains cas des cultures dédiées qui vont être à très forte rotation, hein, les taillis à courte rotation. Mais il s'agit bien de matière lignocellulosique. Et c'est la partie cellulose qui nous intéresse plus particulièrement car elle est constituée de sucres qui sont ensuite transformés en biocarburant type éthanol ou en molécules plateformes pour les plastiques en particulier.
Alors, votre énergie, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, vous en cramez l'énergie, ce qui est normal. Donc elle vient d'où? On a une raffinerie à côté, mais ça vient d'où alors?
Oui, alors justement, on a installé un système de cogénération il y a 2 ans qui nous permet à partir de gaz naturel de produire l'électricité, enfin une bonne partie de l'électricité dont nous avons besoin sur le site et une partie de la chaleur également. On va également avoir, grâce à la métropole de Lyon et à l'appel des 30, nos parkings qui vont être recouverts de panneaux photovoltaïques.
Ouais. De belles ombrières.
De belles ombrières.
Et là, vous allez consommer l'électricité.
Alors là, nous n'allons pas directement la consommer, mais nous allons participer à sa production.
Ah, allez, hop. Bonjour, monsieur. Le BTL pour les moteurs diesel, biomasse to liquide. Ah, ça veut dire que nous allons continuer à rouler, parce que quand même l'IFP, hein, je veux dire, le moteur thermique, on aime bien ça quand même. Bon, donc là, les recherches, c'est quoi?
Alors là, nous sommes dans les biocarburants de deuxième génération, biocarburants avancés. L'idée est de continuer là, à utiliser les moteurs thermiques, mais à remplacer une partie du carburant d'origine fossile par un carburant issu de la biomasse. Donc d'une part,
aujourd'hui, on a quoi? À peu près 7%, on va dire, des moteurs.
C'est à peu près 7% qui sont déjà incorporés dans l'essence ou dans le gazole. C'est transparent pour vous à la pompe, mais c'est plutôt des biocarburants de première génération.
Donc on utilise le grain.
On utilise le grain. On va utiliser les grains de blé, de maïs,
betterave.
Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des biocarburants de première génération. Ici, à IFPEN, on est sur des développements de procédés de production de biocarburants avancés, dits de deuxième génération. Donc on va produire un biocarburant qui peut directement être incorporé dans le gazole et utilisé dans les moteurs diesel.
Qu'est-ce que l'on va utiliser? Est-ce que ça va être à partir là aussi de branchages?
Alors, pareil, en fait, ça peut être à partir de bois issus des résidus de forêt, ça peut être également de la paille issue de résidus de l'agriculture. Donc on va torréfier cette biomasse pour la rendre broyable, pouvoir l'injecter dans le gazéifieur. Et puis en sortie de gazéifieur, on a un gaz hydrogène, CO, qu'on va purifier et transformer en molécules pouvant être incorporées directement dans le gazole, voire dans le jet fuel pour les avions, hein, pour remplacer partiellement ou totalement le kérosène demain.
D'accord, et qui ne sera toujours pas taxé, je vous rassure. La biomasse, on va quand même sacrément taper dedans. Alors vous allez me dire, c'est vrai que les forêts ne sont sûrement pas assez exploitées, on va dire, en France. On a 26-27% de la surface aujourd'hui française qui est recouverte par les forêts. Mais voilà, il faut trouver quand même le bon équilibre, on le disait, entre maintien d'une biodiversité et aussi une énergie qui, là pour le coup, peut être renouvelable.
Ça serait illusoire de penser qu'on pourra remplacer demain tous les carburants fossiles par des biocarburants avancés.
Oui.
Sachant qu'en plus, l'usage de la biomasse lignocellulosique n'est pas réservé qu'aux biocarburants. Ça peut être pour la chimie verte, comme l'a dit Slavik.
Il y a de la concurrence quand même,
ou
sur
également,
les matières premières.
Voilà, il peut y avoir de la concurrence sur les matières
énergie,
premières.
Tout ce que l'on veut.
On parle de mix énergétique, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, on ne sera plus dans le tout fossile, il y aura une part de biocarburant, il y aura aussi une part de véhicules roulant au gaz naturel ou au biogaz issu de la méthanisation, mais également des voitures hybrides ou des voitures électriques. Et on y travaille également à IFP Énergie Nouvelle. On est impliqué sur le biométhane, en travers de la purification du biométhane. Et on a développé également une motorisation électrique ces dernières années, qui est déjà utilisée dans certains véhicules.
Ah, et alors là, on va s'intéresser à notre cher CO2. Et vous lui faites sa fête au CO2. Non, vous lui faites pas sa fête, en fait, vous le récupérez.
Tout à fait. On a développé également des technologies de captage du CO2 en post-combustion. Donc il s'agit en fait de récupérer le CO2 à la sortie des usines pour le capter et derrière pouvoir soit demain le stocker, soit le transformer.
Alors, que peut-on en faire? Donc, ce fameux CO2 qui, de toute façon, est indispensable à la vie, on le sait. Mais qu'est-ce que l'on peut en faire quand on en a de trop?
Alors, quand on a trop de CO2, il y a des pistes pour le transformer en molécules qui pourront derrière être utilisées pour l'industrie chimique ou également transformées en ajoutant de l'hydrogène en méthane. Mais nous, on est très impliqués sur la partie captage du CO2 et on a été aussi impliqués sur le stockage du CO2 car nous avons des compétences sur tout ce qui est géosciences.
On pourrait donc, soyons fous, rêver, se dire que toutes les cheminées d'usines, alors là aussi à terme je ne sais pas quand, mais pour être équipées de cela, pour pouvoir récupérer du CO2.
Tant que le prix du CO2 n'a pas atteint un niveau suffisant...
Ça ne coûte rien, c'est une honte aujourd'hui.
Ce n'est pas assez contraignant pour les industriels pour que économiquement ils s'y retrouvent en installant ce type de système de captage du CO2, que ce soit en combustion, en post-combustion ou en oxycombustion, enfin, les différentes technologies qui existent.
En fait, la tonne de CO2, là j'exagère un petit peu, elle est déjà à 40 euros la tonne, mais il y a un tel système de quotas, on pourrait y revenir un jour, que effectivement ça ne coûte pas grand-chose aujourd'hui. Merci à Cécile Barrère-Tricat de nous avoir donc accueillis à l'IFP Énergie Nouvelle. Donc là on était à Solèze, on est toujours dans ce qu'on appelait avant le couloir de la chimie, puis on s'est dit que vallée c'était quand même mieux comme mot, donc toujours la vallée de la chimie. Et là on va aller sur, c'est pas loin, c'est un site expérimental de Engie. Alors le gaz, vous connaissez, notre gaz naturel brut, il vient en partie de la Norvège, 43%, 21% il vient de chez Poutine, Pays-Bas, et puis après donc l'Algérie. On essaye maintenant, on n'y est pas, hein, on n'y est pas du tout, on est encore tout à fait dépendant de tout cela, mais quand même, on a des essais. Alors vous imaginez une tour industrielle de 3-4 étages, le Rhône est quand même derrière nous, voilà, il passe tranquillement. Et là, vous êtes badgé à peu près une dizaine de fois et vous avez un cours de sécurité. Mais ça, c'est plutôt rassurant parce qu'on est quand même sur un site Céveso. Donc, chez Engie, Alexandra Barba nous accueille et on va dire bonjour à Gaïa.
Ici, on est sur la plateforme expérimentale du projet Gaïa. Donc, c'est un projet qui est basé sur une filière d'avenir et qui veut produire du biométhane, c'est-à-dire un gaz vert, un gaz produit à partir de bois sec, donc typiquement des plaquettes forestières, des granulés de paille, des écorces, pour aboutir donc in fine à un gaz qui peut se substituer au gaz naturel et ainsi être injecté sur les réseaux de distribution ou de transport ou être utilisé en tant que véhicule.
On a quand même une ambition, c'est pas d'aller chercher donc ce matériau trop loin.
On est vraiment dans une logique d'économie circulaire et dans ce sens, avoir un approvisionnement durable de la matière première est un élément clé.
Alors, je sais bien que nous sommes sur un lieu donc expérimental, mais on va dire, le rendement, c'est quoi?
Alors, ici, si on parle du rendement entre la matière première entrante, donc le bois, et le gaz en sortie, on est aux environs de 55-60%. Après, une des spécificités de cette filière, sa force même, c'est qu'elle produit également de la chaleur. Donc on produit un gaz vert et on produit également de la chaleur verte également. Et si on compte donc aussi cette chaleur...
Comme un incinérateur, vous avez effectivement de la chaleur qui va sortir et qu'on va réutiliser.
C'est une chaleur qui est produite en même temps que le gaz vert, qui peut effectivement être utilisé en réseau de chaleur pour un industriel, d'accord, etc. Et là, on atteint des rendements de 80, voire 85%.
Et on imagine bien que la petite idée, ce serait, je dis bien ce serait, on est encore au conditionnel, mais de pouvoir injecter, on va dire, ce gaz qui va sortir sur le réseau de ce que l'on appelle RGT gaz, c'est-à-dire effectivement dans les tuyaux.
C'est l'ambition d'Engie de démontrer, notamment par ce projet Gaïa, qu'on peut aboutir à une offre pertinente d'un point de vue technique, économique et environnemental de production d'un gaz vert qui vient se substituer au gaz naturel et donc qui s'injecte sur des réseaux de distribution ou de transport comme vous avez mentionné.
Alors rassurez-moi, vous ne consommez pas plus d'énergie que vous allez en sortir.
Non, je vous rassure, c'est le but. Oui,
sinon c'est un truc de Shadok quand même. Donc, voilà. Merci Alexandra Barba donc sur le site d'Engie. Et on va retrouver Julien Lahaye, donc le directeur de cette mission Vallée de la Chimie pour le Grand Lyon. On a repris un petit peu de hauteur, on a les monts du Lyonnais sous les yeux. Ah, et on va s'intéresser, entre autres, au sol. Bon, Julien Lahaye, je ne vais pas dire qu'on a envie de respirer quand même plus d'un poumon quoi ici, mais justement, vous essayez d'inverser les choses, en tout cas de diminuer cette pollution aussi.
Effectivement, alors on a plusieurs mesures importantes. L'une de celles qu'on met en place, c'est ce qu'on appelle le paysage productif, qui vise effectivement à développer sur un territoire très industriel, sur des fonciers qui vont être extrêmement contraints, soit par la pollution des sols, soit par les risques technologiques.
Donc vous n'allez pas faire du maraîchage bio là, hein?
Exactement, on ne peut pas faire du maraîchage bio. Par contre, on se dit que sur beaucoup de terrains sur lesquels on ne peut pas de toute façon implanter des activités économiques parce que les risques sont trop importants, on peut développer de nouveaux process de paysage qui ne va pas être un paysage ornemental, effectivement, ni un jardin partagé, mais qui peuvent permettre effectivement de développer de nouvelles filières, soit sur la construction de sols, et on a un enjeu très fort à faire de la Vallée de la Chimie une plateforme pour fertiliser les terres. Aujourd'hui, il faut avoir en tête que toutes les grandes métropoles, et Lyon la première, a beaucoup de projets d'aménagement qui vont consommer de la terre agricole en périphérie. Donc c'est une gabegie extrêmement importante, à la fois environnementale, mais aussi en termes de bilan carbone, puisque cette terre, elle est apportée par des camions dans le centre-ville. Or, on est en train de développer une filière sur ces terrains Vallée de la Chimie pour implanter un centre de fertilisation de terres issu des chantiers. Donc on va récupérer les terres qui vont être extraites des chantiers d'aménagement.
C'est énorme d'ailleurs, parce qu'il faut juste savoir que lorsque l'on parle de déchets en France, bon, on a nos déchets ménagers entre 28 millions ou 32 millions de tonnes de mémoire, ça c'est les ménagers. Déjà, lorsque l'on touche effectivement aux déchets du bâtiment, on est à 200, 250, voire 300 millions de tonnes.
C'est exactement ça, c'est des volumes considérables qui sont souvent envoyés dans des centres spécialisés, là aussi souvent très éloignés des territoires sur lesquels les chantiers se déroulent. Donc on a un vrai enjeu à créer une filière spécialisée qui va récupérer ces déchets des chantiers, va transformer avec un process de fertilisation, avec notamment du compost, de l'amendement, et ensuite la métropole va racheter ces terres, cette fois végétales, qu'elle pourra utiliser dans ses projets d'espace public, de parc, dans le centre, et qui éviteront d'aller consommer de la terre agricole. Et on a réussi à développer avec l'ensemble des entreprises d'espace vert du territoire une filière spécialisée qui va développer effectivement cet outil, qui plus est sur des terrains industriels qui ne pouvaient pas trouver d'autres vocations.
Ben oui, il y a du monde. Vous avez la voie de chemin de fer, vous avez le TGV, vous avez la nationale, vous avez l'autoroute. Non, c'est un petit peu bruyant quoi ce lieu, mais c'est un lieu donc industriel et qui est donc tout à fait symbolique aussi d'un changement qui est en train de s'opérer. C'est du temps, on le sait. Récupérer donc l'énergie des uns pour en faire l'énergie des autres, enfin les déchets des uns pour en faire de l'énergie des autres. Vous avez d'ailleurs aussi le barrage de Pierre Bénite qui est déjà là et qui produit l'essentiel, on va dire, de l'énergie renouvelable sur place. Et puis vous avez Terre et Lac, je tiens à les mentionner parce que c'est une entreprise donc qui équipe les parkings, entre autres d'entreprises qui font du solaire. Ils sont sur 5 hectares déjà de panneaux solaires. En étant très honnête, c'est-à-dire que les industriels vont pas gagner grand-chose, mais ils seront quand même dans ce mouvement inévitable, et tant mieux, donc qui est celui du futur. Et ça nous intéressait bien. Merci à Julien Lahaye, à toute l'équipe. Il y a cette vallée donc de la chimie, vous en savez un petit peu plus. La prochaine fois que vous passerez au sud de Lyon, eh bien vous aurez tout cela là en tête. Dans quelques instants, on va poursuivre la chimie, mais autrement, autre version des molécules, ce sera avec Frédéric Denré.
scorpion, mon frère. Tu es comme le scorpion. Dans une nuit d'épouvante, comme le moineau, mon frère. Tu es comme le moineau. Dans tes menus inquiétudes, comme la moule, mon frère. Tu es comme la moule. Enfermé et tranquille. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas. Tu n'es pas cinq, tu es des millions. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas. Tu n'es pas cinq. Quand le bourreau habillé de ta peau, quand le bourreau lève son bâton, tu te hâtes de rentrer dans le troupeau. Irais jusqu'à dire que c'est ta faute, mon frère, que c'est ta faute, non. Mais tu y es pour beaucoup, mon frère. Et s'il y a tant de misère sur terre, c'est grâce à toi, mon frère. Nous sommes affamés, épuisés. Si nous sommes écorchés jusqu'au sang. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas. Tu n'es pas cinq. Tu es des millions, mon frère.
Bernard Lavilliers, bah c'était aussi un homme du territoire, hein, parce que Saint-Étienne n'était pas évidemment et pas loin de Lyon. C'était Scorpion. Bonjour Frédéric Danhé.
Bonjour Denis Gessot.
Alors cher Frédéric Danhé, on va s'intéresser à l'homme de science que vous êtes et aussi environnementaliste. Voilà, on va faire un petit pas de côté. Là, on a parlé donc de ces, on va dire, ces nouvelles molécules vertes, chimie verte beaucoup, mais parlons aussi de celles que nous connaissons. Lorsque l'on a une nouvelle molécule, quand on a un nouveau mélange de produits qui arrive sur le marché, quel est en fait son chemin, ce qui va nous permettre de parler d'évaluation?
Eh ben, en fait, les entreprises sont tenues, depuis un règlement qui s'appelle REACH, un règlement de 2006, sont tenues de fournir un dossier toxicologique auprès d'un organisme européen qui s'appelle l'ECHA, qui est basé à Helsinki. C'est-à-dire, les entreprises doivent prouver, c'est une révolution, hein, en termes juridiques, c'est l'inversion de la charge de la preuve. C'est à elles de démontrer que leur produit n'est pas toxique, selon certains usages. Elles doivent à la fois décrire la molécule, sa toxicité, sous quelle forme, sous quels usages et comment la molécule a été produite. Ça, c'est déposé tous les 3 à 4 ans auprès de cet organisme européen qui ensuite évalue le dossier pour voir si, un, il est conforme à ce qu'on a demandé à l'industriel et, deux, pour voir s'il y a matière à se préoccuper de cette molécule, auquel cas on demande d'autres évaluations, d'autres études et éventuellement on suspend l'autorisation de mise en vente de la dite molécule.
Mais donc si on a un doute qui est fort?
Si on a un doute qui est fort, eh bien on réclame, on exige, enfin en principe on le fait, cet organisme européen exige d'autres informations auprès de l'industriel en question. Et si ça ne suffit pas, eh bien ce sont les États membres qui sont chargés de l'évaluation fine d'un point de vue toxicologique et écotoxicologique, en particulier en France, c'est l'ANSES. Le problème, c'est que tout ça coûte très cher, ça prend beaucoup de temps, il n'y a déjà pas assez de... Vous savez, il y a 5% des dossiers qui sont réellement évalués à l'échelle de REACH, c'est une obligation légale, ils sont tenus d'évaluer 5% des dossiers, mais aussi parce qu'ils ne peuvent pas faire plus, parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes, et à l'ANSES, on n'a pas des moyens démesurés pour conduire des analyses qui prennent du temps et qui coûtent une fortune. Il y a pas mal de trous dans la raquette. Oui. À cause de ça, il y a des molécules qui passent, il y a des dossiers qui passent et qui ne devraient pas passer.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui on sort du dogme de la dose fait le poison, puisqu'on sait que avec pas mal de produits, c'est la durée d'exposition et surtout le moment où l'exposition se fait qui sont en jeu?
Mais oui, parce que ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, parce qu'ils miment, plutôt parce qu'ils sont considérés comme des hormones, hein, qui sont des médiateurs cellulaires, qui portent des informations entre les cellules, parce que c'est certaines de ces molécules, comme les phtalates par exemple, sont perçues par le corps comme des hormones, on ne peut pas leur appliquer le modèle toxicologique traditionnel. C'est-à-dire qu'une molécule que vous ingérez, si vous en ingérez deux fois, peut-être que finalement l'effet sera divisé par deux, ou multiplié par deux, ou par 10 ou par 100, on n'en sait rien. Et à quel moment, on ne sait pas trop.
Donc, oui, parce qu'en place, il y a un effet qui peut être différé dans le temps, et ça peut même aussi se transmettre d'une génération à l'autre.
Il y a un effet qui peut être démultiplié, ou au contraire divisé, dès lors que vous avez une molécule avec une autre. C'est un effet qui peut se matérialiser dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Bref, il est très très difficile d'évaluer la toxicité d'un perturbateur endocrinien, moyennant quoi les scientifiques estiment que dès lors qu'il y a un doute, on devrait suspendre la commercialisation d'une molécule en attendant de savoir, mais de toute façon on ne pourra jamais savoir parce que évidemment on ne peut pas mener d'études sur l'homme, hein, il faudrait intoxiquer des gens pendant 30 ans avant de savoir si vraiment la molécule est toxique. Donc c'est un vrai problème et aussi un problème d'interprétation. Les industriels s'engouffrent là-dedans pour que rien ne change, évidemment. Mais il y aurait une position assez simple, hein, que défendent les gens, les scientifiques qui sont à la tête de l'ECHA à Helsinki, c'est dès lors qu'on a un doute sérieux, on suspend sans autre forme de procès la dite molécule.
Oui, mais il y a quand même du lobbying donc qui se fait, ça c'est le jeu évidemment des industriels, donc ils vont pouvoir peut-être remettre un autre dossier et faire perdurer, on va dire, cette molécule.
Ah ben bien sûr, mais c'est de bonne guerre de la part d'un industriel qui défend son beefsteak. Mais vous savez, le lobbyisme de l'industriel est d'autant plus important que face à lui, les pouvoirs publics, les agences environnementales des différents États membres n'ont pas les moyens de s'opposer à l'industrie. L'industrie a largement les moyens de faire traîner les dossiers, on l'a bien vu avec le dioxyde de titane, ça fait 10 ans qu'on parle du dioxyde de titane.
Sur le glyphosate, on est pas mal non plus.
Sur le glyphosate, on est pas mal non plus. Voilà, mais pourquoi ? Parce que face à l'industriel, déjà, d'un point de vue scientifique, il y a des doutes, et puis ces doutes font durer le plaisir pour les industriels, parce que face à eux, on n'a pas suffisamment de moyens humains et de moyens financiers pour mettre quelque chose en face.
Et d'où l'importance de la recherche et des laboratoires publics, hein, qui aujourd'hui malheureusement reculent aussi par manque d'argent, mais pourtant c'est là que ça se passe aussi. C'est extrêmement important.
C'est là que ça se passe. Mais en fait, derrière l'argent, il y a une question de confiance. Plus personne n'a confiance dans les instituts de recherche. Les chercheurs sont obligés à un moment ou à un autre, simplement pour vivre, de faire, d'accepter dans leur budget des financements de telle ou telle industrie. Et même si ça représente pas grand chose, l'opinion publique considère que ces gens sont vendus. Non, c'est pas ça. Mais ce qu'il faudrait faire pour retrouver la confiance, c'est créer une espèce de conseil constitutionnel européen de l'analyse alimentaire et chimique. C'est-à-dire qu'on prend des chercheurs, on les sort de leur labo, on les met dans une institution pendant 2 ans, 3 ans, sans aucun lien avec leur monde d'origine et avec les industriels. Ils sont payés, largement payés, pour évaluer les dossiers. C'est ce que l'on pourrait faire. Ça coûterait pas si cher, entre 200 000 et 500 000 euros par an, comme quoi, hein, c'est pas une idée en l'air, ça a été étudié en France. Mais voilà, on veut pas le faire, on ne peut pas le faire, mais c'est sans doute ce qui permettrait de retrouver la confiance du public.
Bon, bah écoutez, un grand merci, on pourrait continuer parce que sur le côté, oui, ça allègrement, mais déjà, ça nous donne quand même aussi un beau périmètre. Merci à vous, cher Frédéric Denré, et puis on se retrouvera très bientôt, d'ailleurs, avec votre prochain livre, là, qui est en train de sortir.
À bientôt.
Salut Frédéric Denré. Merci à Alexandre Chenet, à la technique aujourd'hui, à Camille Blanès, à Hélène Biziot, qui a réalisé cette émission, à Thierry Dupin, qui a donc choisi les disques, et puis Anne Gouzon, qui nourrit le site de CO2 Mon Amour. La semaine prochaine, ça sera aussi du très positif, parce qu'on parlera de plein d'initiatives, 200 initiatives pour la transition énergétique des territoires. On ne passera pas les 200, mais comment ça se passe réellement? Parce que vraiment, ça se passe aujourd'hui au niveau des territoires. La rediffusion, entre 5h et 6h du matin, vous avez une petite insomnie, c'est formidable. Vous réécouterez CO2 Mon Amour. Le podcast, abonnez-vous donc au podcast. Chez Sou, c'est tout simple. Ça, c'est le Twitter. Et puis, La Tulu, mon petit loup, ce sera 19h54 après les petits bateaux demain. Puis, je vous signale que Interception, demain dimanche, ça va être consacré à quoi? Justement, au glyphosate, la molécule de la discorde. Très bon week-end à tous.